kurde. Donc j'ai mes grands-parents paternels et mes grands-parents maternels, tous, ils appartiennent à la région Kurdistan. Ils sont des Kurdes. Donc, côté maternel, ce sont des Kurdes de...
Qui n'existent pas. Le Kurdistan n'existe pas.
En tant que pays, il n'existe pas.
Si le Kurdistan n'existe
pas. J'aimerais bien, parce que moi aussi, je suis kurde.
Mais il n'existe pas.
Alors, Kurdistan. Kurdistan, c'est une partie de notre monde, disons, qui était autrefois, si vous voulez, parmi les fondateurs de ce qu'on appelait l'Empire perse. Donc, on peut les trouver parmi les Mèdes sont des Kurdes. Voilà. Donc, les premiers empereurs iraniens, donc, ce sont des Kurdes. Et Kurdistan, c'est une région montagneuse et que normalement il y a une relation entre la liberté et la guerre dans cette région qui est connue dans l'histoire. C'est-à-dire des guerriers, des soldats venaient de cette région. Et l'idée qu'il n'y avait jamais soumission de cette région, c'est très ancien. C'est une région presque sauvage. Donc la liberté a un sens, disons, courant tout le temps. Alors, Kurdistan, depuis peut-être 400 ans, est partagé en plusieurs parties. Donc, c'est une partie où les Arabes, ils ont essayé de... C'est-à-dire, les Arabes, je veux dire, gouvernement. Et c'est ça que j'entends, les Arabes, c'est pas... On confond pas. Alors, les gouvernements islamistes, des califes, etc., ils ont essayé d'isoler cette partie depuis toujours, parce que c'était une partie rebelle qui ont... Parce que les Iraniens, à l'époque où il y avait l'attaque des musulmans, des Arabes, qui sont arrivés dans l'Empire persan pour mettre la main sur l'administration iranienne, les Iraniens, les Zoroastriens, ont quitté l'Iran. C'est-à-dire une grande partie sont partis vers l'Inde, donc ils vivent toujours, hein, les Zoroastriens. Une partie, ils sont restés une partie au Maroc, une partie sont allés jusqu'en Algérie, donc il y a des villes, d'ailleurs en Algérie, qui s'appellent par exemple la ville Rostam. C'est le nom d'un héros de Livre de Roi. Donc, c'est impossible qu'un quelqu'un de la culture arabe puisse nommer une ville Rostam. Ou, par exemple, en Roumanie, quand je passais il y a quelques mois, il y a une ville avec un nom persan. Et je leur demande, est-ce que vous savez cette ville, d'où il vient ce nom? Alors, on a cherché avec les écrivains, des poètes, et finalement, ils ont trouvé que c'est parce que la ville était sur la route de soie, et les Iraniens se sont installés pendant un temps. Donc, c'est à l'époque d'arrivée de l'islam. Mais la seule partie d'Iran, il n'a pas bougé du tout, c'était les Kurdistan. C'est-à-dire, les Kurdistan, l'islam n'a jamais pu définitivement démolir, si vous voulez, la culture, disons, perse ancien. Donc, cette culture a sorti plusieurs branches. Donc, on a, par exemple, au nom de religion, on a une partie qui s'appelle Yazidi, ça veut dire contre l'islam, en quelque sorte, les gens qui ont tué les prophètes. Donc, tout ce qui ont tué les prophètes, là-bas, se sont sacrés. Ou, par exemple, il y en a une partie de Kurdistan, on les appelle des diaboliques. Les diaboliques, ça veut dire tout ce qui est dans l'islam est positif, chez eux c'est négatif, tout ce qui est négatif est positif. Ça veut dire si tu parles de Dieu là-bas, tu peux risquer ta tête. La nuit, tu peux laisser ta tête. Et donc, ils sont connus comme des gens sauvages, dangereux. Donc, il y a des histoires fantastiques sur cette région, que les gens qui allaient au Mecque, donc, on les tuait et on laissait leur tête sur le feu. Et il faut danser avec leur tête qui... Donc, c'était carrément anti-islam depuis 1400 ans. Quoi. Et cette partie, ils ont un livre sacré hein, qui est, par exemple, la musique, c'est sacré dans cette partie des diaboles, diaboliques, hérétiques. Alors, la musique est sacrée. Dans l'islam, la musique est interdite, carrément. Donc là-bas, quand un enfant est né, il faut construire un instrument de musique, une sorte de tambour, ce qui ressemble à l'instrument de Barzan, mais c'est un peu plus petit. Mais on construit aussi petit que l'enfant puisse le tenir. Après, avec l'âge, on construit un instrument plus grand. Donc quand il arrive à 18 ans, il sait jouer, tous les garçons savent jouer. Et maintenant, c'est lui qui est, disons, côté religieux parmi les prêtres.
Non,
c'est pas uniquement les garçons. Mais c'est les garçons qui deviennent, imam. Voilà, il n'y en a pas imam femme. Donc, dans Kurdistan, et aussi, c'est un peu particulier, hein, la situation. Donc, c'est, les femmes, ils ont un certain pouvoir qui est depuis millénaires toujours lié. Ça veut dire tout ce qui est la maison jusqu'à, je crois, 30 ou 50 mètres autour de la maison, l'homme n'a aucun droit. Donc, le pouvoir des hommes commence à partir de 50 mètres de chez lui. Pas plus proche. Donc, ça, c'est, en Kurdistan, c'est. Ça existe, hein, depuis toujours, et aujourd'hui ça existe. C'est une région aussi que, en fait, la culture moderne, si vous voulez, n'est pas pénétrée. C'est-à-dire, ils sont toujours aussi simples qu'on aurait pu les trouver il y a 500 ans. Alors, une de mes passions en Iran, c'était que toutes mes vacances, tous les jours que je ne travaillais pas, j'étais dans cette partie de l'Iran et je rassemblais leur compte. Donc je crois que j'avais rassemblé plus de 500 heures d'enregistrement des comptes dans toutes les régions, c'est-à-dire en bas de Mésopotamie jusqu'à Kurdistan, Mahabad qui est dans le nord de Kurdistan. Voilà, tout ceci donne une idée de l'Iran. Par exemple, porc chez les musulmans, c'est interdit. Là-bas, c'est sacré. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de manger le porc tout seul. Chaque fois qu'il y a la viande de porc, il faut une fête. Toute la communauté se rassemble. Toute la communauté, sans exception, femmes et hommes, ils doivent se laver les mains et toucher cette viande. Et les masser. Hein. Et une fois tout est prêt, il faut les manger tous ensemble. C'est quelque chose carrément contre les principes islamiques, disons. Donc, ceci existe toujours. C'est-à-dire, même Khomeini et tout cet intégriste moderne, ils n'ont pas pu pénétrer dans ces régions et transformer quoi que ce soit. Et dans ces régions restent toujours intactes, puisque c'est montagneux, et puis c'est difficile d'entrer, parce que c'est comme ça.
Et les Mongols non plus.
Hein? Les Mongols non plus. C'est-à-dire, c'est la seule région où l'Iran existe en dehors de toutes ces attaques. Bon, pour dire un mot sur quand même l'Iran, quand on dit l'Iran, c'est un pays c'est une faillite, disons, de l'Empire qui commence il y a 1400 ans à peu près. Et que laisse cette partie du monde qui était gérée par un fédéralisme à l'époque, car les gouverneurs tournaient entre les peuples, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu de guerre entre les peuples, parce qu'en Iran, il y a 5 peuples. L'Iran, quand on dit, c'est pas, il n'y en a pas de Perses. Ce qu'on dit, les Grecs, ils disent Perses, ce n'est pas vrai. L'Iran, il y a 5 peuples qui ont 5 langues qui habitent dans cette région. Il y avait qui était gérée fédéralement. C'était une fédération qui gouvernait cette partie du monde. Et cette fédération tournait. Parfois, les militaires venaient de Kurdistan, l'empire, l'empereur était kurde, et après, plus tard, on a des Turcs, des Azarites qui viennent. Après, on a des Baloutches qui viennent, des Safarites qui viennent. Voilà, ça tourne. C'est quelque chose. Il y a 5 peuples qui vivent ensemble, jusqu'à arriver des Arabes. Alors, cette culture qui était un gouvernement qui se brise tout d'un coup avec l'arrivée de l'islam, il va perdre la totalité de sa culture. C'est-à-dire, c'était un pays, apparemment, d'après ce qu'il raconte Hérodote, qui était d'une mère iranienne, hein, la maman de Hérodote, c'est une iranienne, et qu'il raconte, j'ai perdu le fil. Oui, je parlais de la culture, voilà. Toute la culture, Hérodote dit qu'il y avait beaucoup de bibliothèques, beaucoup de livres, par exemple, de tous les livres iraniens, toute la culture écrite. On n'a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule page dans le monde. Ça n'existe pas. Donc, tout le passage de tous les livres qui faisaient, je dis, voilà, pour moi, la culture vient de l'Inde, hein, qui passe obligatoirement par l'Iran, après, il va partout. Et toute cette partie de l'histoire, ça veut dire avant 1400 ans, avant l'islam, nous n'avons plus rien. Tout ce qu'on trouve, ce sont des choses sur les cailloux. C'est-à-dire, ce sont des écrits sur les pierres qui restaient. Sinon, il n'y a aucun livre, dont le livre de roi, qui était un livre égal à Iliade, Odyssée, qui existait en Iran, ça n'existe pas. Et le livre qu'on possède aujourd'hui, c'est un livre qui a été écrit en 11e ou 12e siècle. Hein? Donc, où est le livre de roi? Qui a écrit? On connaît un nom. On dit à un monsieur qui s'appelait Rodeki, mais on ne sait pas qui c'est, quand, comment. Paraît-il, il était aveugle, ressemble à Homère. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Tout est sur hypothèse. Donc, de la culture, disons ancien iranien, on n'a plus rien. Donc, l'Iran a subi un immense génocide, intense génocide, par les Arabes d'abord, en arrivant, qui ont démoli. Non, avant les Arabes, par Alexandre, alors monsieur Alexandre, qui était apparemment amoureux de l'Iran, etc. Donc, c'est lui qui a brûlé la bibliothèque de Persepolis, hein, de Shiraz. Et puis, après lui, les Arabes, ils ont brûlé le reste. Après, on a de Genghis Khan, qui arrive, les Mongols qui arrivent, et qui brûlent la totalité de ceux qui restent, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs génocides qui viennent et qui démolissent ce pays. Pour vous dire que ce qu'on a aujourd'hui de la culture iranienne, c'est une culture orale. C'est pour ça l'idée d'oralité et l'idée de conte, ça me touche profondément aujourd'hui. C'est-à-dire parfois, avec Parzan, je discutais, il faut déposer une demande auprès de l'UNESCO, parce que cette culture qui existe depuis millénaires, surtout dans certaines régions iraniennes, va disparaître avec la télévision, avec l'ordinateur, etc. Ça va disparaître. Parce que les gens qui ont cette culture, y compris le livre de roi qui a été écrit par Bourrache Bouchaoré, c'est-à-dire ma grand-mère qui ne savait ni écrire ni lire, il connaissait à peu près 2000 vers par cœur. Où elle a appris ça? Comment elle a appris ça? Donc c'est étonnant. C'est étonnant. Alors, ainsi de suite. Donc cette culture, on l'a gardée de bouche à oreille. Hein. Donc on dit poitrine à poitrine chez nous. Poitrine sur poitrine, quand on a gardé ça. Et aujourd'hui, ça existe. Et il faut un grand projet pour aller rassembler ça, pour aller enregistrer ça. Voilà, douleur, c'est 450 heures d'enregistrement. À l'époque, il n'y avait pas de mini-disque qui fasse 5 heures ou 6 heures. Hein, c'était des petites cassettes, etc. Et alors que j'ai rassemblé, tout a été pris par les gouvernements islamistes et ils ont tout démoli. Donc, c'est-à-dire, tout ce travail... Tous ces travaux que j'ai faits ont disparu. Je n'étais pas seul, il y a d'autres qui l'ont fait. Tout est parti, y compris la radio iranienne à l'époque du Shah. Il y a beaucoup de recherches qu'ils ont fait sur le passé. Tout ceci est disparu complètement. Donc c'est une culture qui a subi la génocide. Je pense ça c'est important. Quand on parle de l'Iran, il faut avoir dans sa tête aussi la génocide culturel qui est là toujours. C'est-à-dire, même aujourd'hui, on affronte à ça. Parce que les gens qui gouvernent, qui ont des turbans noirs, hein, en Iran, on le sait, celui qui a des turbans noirs n'est pas un Iranien, est un arabe, descendant de prophètes. Donc, ce n'est pas un ami dans la culture iranienne. Alors, comment maintenant ce parcours arrive que ces gens-là, qui ne sont pas iraniens, qui ne sont pas amis de cette culture, et qui gouvernent, ça, c'est une autre histoire. Peut-être c'est là que mon aspect un peu politique, hein, ça va un petit peu devenir plus acide.
l'agriculture iranienne ou kurde?
Alors, moi, si je dois dire, je suis né en Kurdistan. Mais l'Iran sans Kurdistan, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on ne peut pas envisager dire Kurdistan, il n'est plus dans l'Iran. C'est-à-dire, l'Iran va perdre, disons, 50% de tout son histoire. C'est impossible de séparer. Peut-être un jour, on doit parler de la manière qu'on a parlé de l'Europe. Parce que, je veux dire, c'est moi, ma culture, c'est une culture qui est déjà à la base de 5 cultures. C'est pour ça que je dis, je suis de sang d'un kurde, mais de la culture, je ne suis de nulle part. Et surtout aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que je suis de la culture d'un endroit ou d'un autre.
La langue maternelle, paternelle, elle est...
Oui, la langue maternelle.
Elle est kurde.
La langue maternelle à moi, c'est une langue kurde très particulière. C'est langue kurde de Kermanshah. Parce que Kermanshah, c'est une ville. Quand tu appelles dans la rue, tu appelles, tu dis, je ne peux pas le dire en français, comment on peut le traduire? Parlez-vous.
Héros.
Ça ne se dit pas, mais si tu dis dans la rue, tout le monde se retourne. C'est-à-dire, c'est la ville des gens, des...
Peut-être voyant semillon.
Le voyant. Oui. Ben, voilà, c'est une ville particulière. C'est une ville où la générosité est connue. C'est une ville, c'est connu par les autres, c'est pas par eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, à quelqu'un de Kermanshah, il dit jamais qu'il est généreux. Mais si vous parlez à quelqu'un de l'autre côté de l'Iran, de l'Irak, il vient de Kermanshah, il dit, oh, ah bon? Et il le prend dans le bras. Elle dit tout de suite, mon oncle. C'est-à-dire que c'est, culturellement, c'est une ville qui est à part. Il ne parle pas la langue kurde, qui est la langue de kurde un peu plus dans le nord, hein, la langue de Barzane, par exemple. On a une langue, d'ailleurs, maintenant, il y a un dictionnaire kurde Kermanshah qui vient sortir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se faire une langue, carrément. Ce qui est extraordinaire, quand même. Voilà, je suis né de là, mais pour vous dire, de manière, puisque pour moi, la vie sans affection n'est rien, de manière affective, mon père me disait, tu n'es pas d'ici, toujours. Il dit, je ne sais pas d'où tu es, mais tu n'es pas d'ici. Maintenant, pourquoi il me disait ça? Je ne sais pas. Mais je sais que j'avais la facilité d'être ici, par exemple, en France. Maintenant, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a certains d'autres qui ont des nostalgies d'Iran, par exemple. Je n'ai pas une nostalgie d'Iran.
Kazem, tout à l'heure, tu as dit que l'Iran n'existe pas sans Kurdistan.
Oui.
Alors, je te retourne la question. Est-ce que Kurdistan peut exister sans l'Iran?
Kurdistan ne peut pas exister aussi sans l'Iran. C'est pas possible. Je pense parce que même par la langue, la langue kurde, la langue persane, c'est une langue indo-européenne. La langue kurde, c'est une langue indo-iranienne. Ça veut dire, nous sommes par la racine, nous sommes tellement, tellement attachés culturellement, au-delà des querelles politiciennes ou querelles politiques, disons, de... tactique, parce qu'aujourd'hui les Kurdes ils disent on va vers un pays cinq, on va indépendant, c'est tactique tout ça pour moi, hein? Stratégiquement, un jour cette région il doit se libérer de tas de choses, il faut qu'il cherche son identité, son véritable identité, c'est-à-dire sa culture, sa langue, ses écrits et c'est tout ça, il faut le chercher.
Je précise l'Iran avec tout l'Iran avec.
Bien sûr. Parce que, je veux dire, le Shahnameh, tu le prends des Kurdes, ils n'ont rien à voir, ils n'y a plus rien. Tu le prends des Iraniens, ils n'ont rien. Alors, c'est lui qui est né, par exemple, Baloutchistan. Et il va dire quoi? Il n'a ni l'histoire des luttes des Kurdes, ni son existence. Il n'est même pas dans le Shahnameh. Alors, il doit se tirer une balle dans la tête. Donc, les Baloutches sont une partie, ça veut dire Afghanistan... Même une partie de Pakistan, c'est une partie de la culture, de cette culture, cet empire.
Même s'ils ne le reconnaissent pas.
Même s'ils ne le savent pas encore. pas un scientifique, mais je réfléchis à haute voix, vraiment. Alors, je pense, si on doit parler de cette région de l'Iran, d'un trait caractéristique, il faut parler, c'est vrai, d'une résistance très forte. Je pense que le nombre de poètes qui ont dépecé depuis 14 siècles, c'est pas d'hier, hein, Nassimi qui a été dépecé, ou Rumi qui a été poursuivi ville en ville, il partait exil en exil, jusqu'à quand les Kurdes ils ont caché Rumi. C'est pour ça que les Turcs ils ont nommé Rumi, parce que comme il était dans le Kurdistan côté turc aujourd'hui, il est en Turquie, il est beaucoup plus connu en tant que poète, mystique, etc. Mais Rumi, il n'est pas du tout de cette région. Il était caché en Kurdistan. Il était exilé en Kurdistan. Et il a vécu longtemps en exil et en clandestin. C'est-à-dire, voilà, d'abord l'aspect de cette résistance qui est énorme dans ce pays, hein, auprès des écrivains. La plupart des écrivains étaient poursuivis. On avait des écrivains qui travaillaient pour le roi aussi, mais même parmi eux, hein, à la fin de leur livre, ils ont laissé une vingtaine de vers insultant le roi, c'est un imbécile, il faut qu'il abandonne son royaume, qu'il aille ouvrir un boulangerie, et en plus, il ne peut pas cuire le pain. Voilà. Donc, je veux dire, et puis on a des poètes extraordinairement, disons, radical au niveau populaire et radical au niveau, c'est-à-dire face à l'État. On a un poète qui a écrit une guerre entre les souris et les chats, que bon, vous trouvez 12 siècles plus tard, Walt Disney qui fait, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le film, mais en tout cas, les souris et le chat, c'est question de pouvoir, il les traite en poésie, et lui, il était poursuivi. On a des poètes qui la bouche cousue, etc., parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir même à la tribunal, ainsi de suite. Donc, il y a une résistance féroce dans ce pays, que, bon, tout le monde, on a des tas de contes et des histoires là-dessus. Et il y a une deuxième chose qui me semble très importante, c'est la capacité extraordinaire d'un peuple de s'intégrer. Ça veut dire, les Arabes viennent, Alexandre vient, ils disent, d'accord, on va apprendre un peu grec, ça va, ou tout ce que vous voulez. Restez ici, on va s'arranger. On lui amène des livres. Alors, les Arabes arrivent, ils disent, d'accord, la plupart des auteurs des quatre premiers siècles, ils disent, d'accord, à Harun al-Rashid, ou je ne sais pas, le calife, ils disent, ne vous inquiétez pas, tous les livres, on va l'écrire en arabe. Et ils écrivent tous les livres en arabe et en persan. Ça veut dire, les livres circulent dans le pays en persan, offerts au calife, en arabe. Donc, le calife, il imaginait, bon, les Iraniens parlent arabe, mais en fait, les Iraniens parlaient toujours persan, et les livres circulaient en persan. Donc, il arrive jusqu'à, parfois, moi, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, tu connais Avicenne? Oui, non, je suis désolé, qui c'est? Alors on me dit, bon, c'est un Iranien, on croyait que tu es Iranien et puis tu es un homme de culture, mais comment tu connais pas Avicenne? Avicenne, il m'explique. Avicenne, je dis, non, Avicenne, je connais pas, mais vous pouvez me dire un livre ou deux. Alors il me disait les noms, il ne s'appelle pas Avicenne du tout, il s'appelle Sina. Entre Sina et Avicenne, il y a une différence. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'étais étranger à ma culture. Tout d'un coup, en plus, il est né juste à côté de chez moi, à Ecbatan. Donc, cette capacité de s'intégrer, je veux dire, au pouvoir, je veux dire, à la guerre, et cette idée de la paix est quelque chose. C'est-à-dire, je ne trouve pas en Iran, il y a deux choses qui sont touchantes. D'abord, dans l'histoire iranienne, vous n'avez pas esclavage. L'esclavage est absent. C'est-à-dire cette seule partie du monde où l'esclavage n'existait pas. D'ailleurs, Karl Marx était tout curieux, il dit, si un pays, je ne peux pas croire, je dois apprendre la langue. Il sait bien apprendre la langue persane, parce qu'il disait, je dois savoir pourquoi il n'existait pas. Ce n'est pas possible. Il doit, l'esclavage doit partout exister. Donc, il y a ça, il y a ces deux choses qui permettent que ce peuple, malgré tout, qui subit tous ces changements brutaux, radicaux, violents, mais quand même, au fond, ça circule. Ceci, je pense, si dans ma jeunesse, à l'époque du Shah d'Iran, il n'y avait pas encore des intégristes, ces étranges bêtes qui sont là maintenant. À l'époque, c'était un peu plus civilisé. La police, on venait, on convoquait, on venait chercher, hein, on disait, écoutez, votre pièce, c'est bien, mais vous ne pouvez pas publier cette page, cette page, cette page, d'accord. On ne publiait pas, on déchirait page, page, page. Donc, mais là, c'est différent. Même à cette époque, il y avait, si nous, on avait une vie, disons, presque clandestine, qui circulait de manière, disons, populaire, parce que le peuple acceptait l'idée, hein, qu'on existe sous. Hein. Ça vient de son histoire, évidemment. Ces deux choses, il me semble, c'est très important. Pour ce qui est le pays, moi je vois toujours grand, quand je suis allé en Afghanistan, j'étais étonné qu'ils sont tellement éloignés de cette culture. Hein. La pauvreté, ça fait que ils se sont éloignés de la culture, comme moi je l'appelle, la culture iranienne, c'est-à-dire la culture qui nous rend peuple, hein, des peuples. Et ça, ça existe. Moi, je ne connais pas. C'est-à-dire, chez moi, si tu me parles kurde ou tu me dis musulman, ça me fait rire dans mon enfance. Ça n'existe pas, ça. Moi, ma meilleure amie, c'était un juif. Maintenant, je sais, je dis, à l'époque, on ne se disait pas ça. Mais je disais, moi, je ne mange pas chez vous parce que vos repas, un petit peu, ça sent pas bien. Parce qu'ils mangeaient beaucoup de l'ail. Et moi, je n'aimais pas de l'ail. C'est la seule différence que je me souviens de mon ami, c'est de l'ail. Ainsi de suite. Donc, ce genre d'idées, ça devient, disons, beaucoup plus précis une fois on est à l'étranger. Et en Europe, tout est catégorisé. C'est-à-dire, on peut séparer les choses d'ici. Donc, on discute des Kurdes comme si c'est les Kurdes. Bon. Mais aujourd'hui, il y a 6 millions de Kurdes qui habitent à Téhéran. Comment on va faire? On va les pousser, comme les Palestiniens, on va les prendre dans un machin, et on va les remettre après dans le Kurdistan de demain. Mais je sais pas. Ce sont des difficultés de demain, je pense. Et à un moment donné, il faut accepter qu'il y a un sol, une seule terre. Il faut construire un monde sans mur. C'est ça qui est pour moi l'essentiel. Les questions qui heurtent pas immédiatement nos affaires, mais qui va toujours un peu plus loin. Aujourd'hui, ça me fait rire quand on me dit Kurdistan irakien, il pense à son indépendance, et quand je vois le président de la République d'Irak qui a juré de l'intégralité de son pays, c'est un Kurde. C'est-à-dire que ce Kurde doit protéger les Arabes, doit protéger les chiites, etc., etc. Mais il est président. Comment les Kurdes peuvent dire en même temps qu'ils veulent être indépendants et que leur chef, il est président de la République? Cette contradiction, comment ils vont le régler? Ou bien c'est des magouilles et bagouillages pour profiter des mouvements populaires, ainsi, par-ci, par-là. Mais logiquement, il faut qu'on travaille sur un monde sans mur, un monde sans frontières. Donc, avec toute sa richesse, moi je dis, toute cette culture qui est en effervescence aujourd'hui, des poètes iraniens comme Rumi qui ont été massacrés, leur livre a été brûlé pendant 5 siècles. 5 siècles, les musulmans disaient, le livre de Maulavi, il faut le prendre avec un pince pour le mettre dans le feu. Même quelqu'un qui touchait en coupait sa main. Et ce bonhomme, hein, ce poète, aujourd'hui, c'est le drapeau de musulmans iraniens. C'est curieux, ça veut dire, ça nous fait réfléchir au-delà de dire des calculs habituels des historiens. Les historiens sont des super menteurs. Moi, je préfère autrement l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas ce qu'il dit l'historien. L'historien, il s'arrange selon une idéologie de raconter l'histoire qu'il connaît, une partie de l'histoire. C'est pour ça que je suis attaché au théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est la philosophie, c'est l'histoire même. Parce qu'on est en face, dans le théâtre, on est en face de cette contradiction immédiatement. Hein, donc, on ne va pas retarder demain. Dans la poésie, on ne peut pas dire « j'attends demain ». Donc, tu dois dire des bêtises que tu vas le dire, il faut le dire. Parce qu'une fois que tu l'as dit, après tu l'as dit. Maintenant, il faut inventer quelque chose. Peut-être ce n'est pas des bêtises, la prochaine chose. Moi, très jeune, premier texte que j'ai écrit, j'avais je crois 9 ans ou 8 ans, 9 ans, à l'école, le professeur nous a donné une dissertation, c'est ça ? Alors, il dit, décrivez-nous une journée d'hivernale. Voilà. L'hiver, racontez l'hiver. Bon, je suis allé à la maison, bon, je me suis caché dans un coin, et voilà ce que j'ai écrit. Alors, j'ai écrit l'histoire, le soleil, c'était quelqu'un, il avait du mal à sortir. Donc, il essayait de dire à la lune, qu'il avait un coup de main, parce que tout le temps, je te donnais un coup de main, j'ai du mal. Après, il voulait sortir, il avait du mal. La terre avait du mal à respirer, petit à petit. Il appelait, bon, le soleil ici, voilà. Donc, c'est un texte, une page. Et petit à petit, j'arrive, juste à côté de chez moi, je parle d'une robinet public, l'eau publique. Nous, on n'avait pas de l'eau chez nous. Alors, il fallait aller dans la rue chercher. C'était juste à côté de ma maison. Mais c'était la glace, donc c'était tout gelé. Donc l'eau ne coulait plus. Alors, et puis, bon, je vais chercher de l'eau. Je vais pénétrer chez mon voisin et il y a une femme que son lait ne coule pas. Alors, il a ce bébé dans le bras et le lait ne coule pas. Voilà, c'est ça que j'avais écrit. Alors, j'écris ça. On va lire. Alors, d'abord, mon professeur, la maîtresse, a lu. Et il m'appelait, dit, lisez ça à haute voix. Il lit. Après, il me dit, et pour, où tu as volé ça? Je dis, je n'ai pas volé. Non, et bien fait, voilà, il faut que tu fasses venir ton père. Et moi, j'avais très peur de mon père. Qu'est-ce que c'est cette histoire de ton père? Mais comment j'ose aller vers mon père? Mais qu'est-ce que vous avez avec mon père? Dites-moi tout ce que vous voulez, mais non, 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 il faut que tu fasses venir ton père. Alors, ils ont fait venir mon père. Alors, ils disent que voilà, il a copié sur un livre. Et mon père, il dit, ah bon? Il a copié, oui. Alors, il se dit, vous avez des papiers, vous? Ouais, donnez-moi deux papiers. Alors, il dit, il dit, écrivez-moi, mon cher, là-dessus, votre pensée. Il a volé, copié, si vous connaissez l'homme. Il dit, non, je ne connais pas, mais je suis certain, c'est impossible, c'est pas lui. Il écrit. Il est signé. Il est signé. Il met, plié, dans sa poche. Il prend une autre feuille, il écrit le contraire. Il dit, moi, le père, je suis signé. Ashkashayari. Je sais que mon fils, il a écrit A, je signe. Il dit, vous gardez ça, moi je garde ça, on se verra plus tard. Vous voyez, c'est un homme que j'avais peur toujours, mais quand aujourd'hui je raconte ce genre d'histoire, qui est arrivé plusieurs fois. Plus tard, il est arrivé, quand on m'a attrapé dans la rue, la police, et qu'ils m'ont cassé le bras, ils m'ont fait boire de vodka, et qu'ils m'ont lancé dans la rue, et il pleuvait. Et on téléphone à mon père, on dit, votre fils a dragué ma soeur, et on lui a donné une leçon. Tu peux aller la ramasser dans la rue. Et mon père, il dit, c'est pas grave, donnez-moi votre adresse, je viendrai avec un anneau, et je viendrai avec le chocolat, pour demander pardon, donnez-moi votre adresse. Et lui, au téléphone, il a paniqué, la policier. Il avait tout prévu, sauf ça. Que le père dit, c'est pas grave, donnez-moi votre adresse, je vais venir vous demander pardon. Mais je l'amènerai avec coup de pied, mon fils. Alors, En fait, c'est, il a fait plusieurs coups pour moi. Enfin, la première histoire que j'avais écrite, c'était ça. Et dans la même année, je crois, je suis allé dans un... Dans une fête, il y avait un acteur boiteux qui s'appelait Ismaël de la radio. Il était connu dans... Tout le monde se moquait de lui. Et puis tout le monde disait sa femme est une pute, etc. Alors, moi, j'étais fasciné par ce bonhomme. Alors, il faisait rire. Il allait dans des mariages, dans les fêtes, et il racontait des blagues. Et moi, j'étais très, vraiment, j'étais fasciné par sa capacité. Il n'était rien du tout. Tout le monde l'insultait. Tout le monde disait du mal à sa femme. Sa femme était toute belle. Elle était fantastique. Et moi, je disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et voilà. Et moi, j'ai suivi ce bonhomme. Je suis devenu, en quelque sorte, son élève. Donc, je suivais. Je voulais savoir comment il fait. Malgré toutes ces difficultés, parce que je savais son fils, je le connaissais, son fils il volait. Alors, souvent il me disait, viens, on va voler ensemble. Moi je dis, non, moi, je vole pas. Un jour il est venu, il avait volé des choses, il me dit, tu veux bien le cacher ça? Ben, je dis, d'accord, je vais le cacher, mais attention. Donc son fils, je disais, malgré toute cette souffrance, toute cette misère qu'il y a dans chez eux, et puis tout ce qu'on dit autour, et puis il est boiteux, il n'était pas beau, etc. Comment il fait pour faire rire? Je peux le dire aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais fasciné que quand il rentrait, tout le monde était par terre de rire. Parce qu'il racontait l'histoire sur une carotte. Et tout d'un coup, en jouant des carottes, il pétait, etc. Il faisait des choses. Tout le monde. Je me disais, comment il arrive? Alors, j'ai suivi ce bonhomme. Alors, le premier spectacle que j'ai inventé, c'était une assiette. Alors, voilà, il y a une idée que sur le Dieu, chez moi, dans ma maison, le Dieu n'était pas bienvenu. Donc. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était comme ça avant que je sois né. Donc il fallait pas devant mon père, il fallait pas parler de ce genre de choses. Voilà, il n'aimait pas ça, tout simplement. C'est-à-dire si un mollah il passait pas loin de chez nous, il risquait ses vêtements. Parce que lui il arrachait ses vêtements et il disait rentre chez toi, tout nu. Et sérieux ce que je dis, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. La seule chose que j'étais heureux quand c'est arrivé la République islamique, j'étais heureux qu'il était mort déjà. Parce que s'il était vivant, d'ailleurs on est venu le chercher. Parce qu'on l'arrachait, vraiment, on le dépeçait, ça, même s'il était vieux. Donc, c'était Dieu n'était pas bienvenu chez nous. Alors, j'avais un jour, j'avais décidé comme ça à l'école, pour faire rire aux enfants. Alors, j'avais fait une grande assiette avec une bougie, je faisais noir. Et je disais, c'est lui qui croit en Dieu, vraiment. Dieu lui donne de l'argent. Et puis, les gens, ils ont dit, les enfants dans ma classe, ils ont dit, ah bon, etc. C'est-à-dire, le professeur, il me dit, fais quelque chose, écris quelque chose rigolo. Ben voilà,
je dis ça. Tu avais inventé la scène de Don Juan.
Ah, j'ai choisi trois personnes. Trois personnes. Alors, j'ai dit, c'est vous trois que vous croyez vraiment en Dieu, ils ont dit. Donc, vas-y, vous allez dans notre classe, on va venir vous chercher. Mais vraiment, vous devez fermer les yeux, vraiment, vous devez souhaiter, et ceci doit durer vraiment une minute. Et je vais vous présenter une assiette que Dieu va vous donner de l'argent si vous croyez vraiment, mais il faut toucher cette assiette et toucher votre visage. Comme les musulmans, ils font ça. Ils font ça, les musulmans. Et chez moi, il ne fallait pas faire ça, parce que mon père, il s'est fâché. Alors, et premier enfant arrive, et dans ma poche, j'ai des petits sous. Alors, il commence, dit plus fort, voilà, pour tu obtiens de l'argent. Et l'enfant, il essaye encore. À partir de, disons, 50 secondes, je lançais une petite ting dedans. Ah, ah, de l'argent, mais encore plus fort. Et il plaçait sa main, il mettait sur son visage. Et les enfants dans la classe étaient morts de rire. Donc, en fait, c'était Dieu qui lui donne de l'argent. C'est la première scène que j'ai fait. Et puis, voilà, j'ai écrit des petites pièces. Je ne peux pas expliquer pourquoi je suis allé dans ce sens, dans une famille qui n'était pas du tout artistique. C'est-à-dire, mon père, il disait, tout ce que tu veux, moi je voudrais que tu deviennes médecin. D'ailleurs, j'ai fait tout pour qu'il sache que je vais devenir médecin jusqu'à la fin de sa mort. Il pensait que je vais devenir médecin. Thank you. Mais un jour, il m'a dit, Golis, tu n'es pas mon fils, tu es le fils d'Ismaël. Ismaël, c'est le petit bonhomme boiteux. Parce qu'il voyait que je suis fasciné par ce bonhomme qui boitait, il allait partout dans les fêtes, etc. Donc c'est comme ça, moi, je me suis approché d'abord à l'acte, c'est-à-dire l'écriture, et puis le théâtre. Et puis comme j'avais beaucoup de frères, des frères plus âgés que moi, des petits dictateurs qui gouvernaient, j'étais plus petit. Hein? Donc vous imaginez, dans une grande famille comme ça. Donc c'était difficile d'écrire. Donc j'avais pas des amis dans la maison où il y avait une foule de féroces, hein, des frères complètement fous. J'avais mes amis à l'extérieur. Donc ça faisait que, en fait, l'écriture passait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Eux, ils ne savaient rien. Hein? Mes frères ne savaient rien. Sauf mon père qui disait, oh là là, toi, t'es parti ailleurs. T'es parti ailleurs. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu petit à petit l'écriture. Mais je vous avoue que j'ai jamais écrit un poème jusqu'à peut-être 18 ans, hein, sur un papier d'abord. C'est-à-dire les poèmes, même toujours, si je me laisse aller, les poèmes entre 16 ans et 20 ans, je les par cœur. Parce que je les faisais par cœur. J'ai jamais écrit les poèmes sur un papier. D'ailleurs, je l'ai écrit sur les murs, mais pas sur un papier. D'ailleurs, il y a un livre, je vous avoue, il y a des Iraniens ici, mais ils vont savoir quelque chose de particulier. Il y a un livre qui est sorti d'Iran, que j'ai vu, quelqu'un m'a montré, qui s'appelle « Les chansons des poètes inconnus ». Alors, il y a plus de 50 chansons de ces poètes inconnus, ce sont les miens. Et je ne dirai jamais ce sont lesquels. Et c'est mon plaisir de les laisser comme ça, avec plein de fautes dedans. Mais voilà. Ce sont des poèmes que j'écrivais sur les murs, et j'aimais beaucoup la pluie, et je sortais, je l'écrivais sur un mur, parce qu'il n'y avait personne le soir, et je partais. Et deuxième chose, quand j'étais étudiant, j'allais dans les bibliothèques, à l'université, je notais mon poème dans l'enceinte de la bibliothèque, sur un bout de papier, je le glissais dans un livre, et je sortais, et je rencontrais la première personne, j'ai vu le livre de tel livre, il y a un poème dedans très beau. Demain, quand je revenais, le poème n'était pas là. Voilà. C'est comme ça que je faisais pendant des années. Et une autre chose qu'on faisait, qui était tout à fait normale aujourd'hui pour moi, à l'époque c'était tout à fait normal, c'est-à-dire prendre des livres interdits et entrer à la maison, sans quand tout le monde s'endort vers minuit. Nous, on allait avec une petite lampe sous couverture et on écrivait, vous savez, par soir, je crois. Là, en France, ça y est, j'ai guéri. J'avais une boule comme ça. Parce que tous les soirs, je copiais plus de 20-30 pages. Et chaque fois copié, je ne gardais pas. Les 30 pages partaient dans une bibliothèque, glissaient dans un livre et je sortais. Je disais à quelqu'un, oh, j'ai vu un livre de Lénine. Tu sais qui c'est Lénine? Il me dit, où ça? Il dit, dans tel livre. Et je disparaissais. Donc il y a plein de monde qui ont lu plein de livres que j'ai copiés. Et pendant des années, pas une année, deux années, et vraiment pendant 6 ans, j'ai copié des livres, j'ai copié des poésies, j'ai copié Mayakovsky, et j'ai placé par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-ci.
Sans Cortespan, Iran n'existe pas. Et il y a des gens aussi. Et tu as mis Iran face à l'islam. Et il y a des gens qui disent aussi que sans Salahuddin, l'islam n'existe pas aussi. Qu'est-ce que tu dis? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Salahuddin? Qui est Salahuddin? Qu'est-ce qu'il a fait?
Je ne suis pas historien, vraiment.
Tout ce que je raconte, c'est
mon expérience, plutôt. Tout ce qui va à côté, par exemple, historique, si on demande, peu importe le roi ou chef, honnêtement, je me tiens à l'écart de tout ça. En tant qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Mais un homme qui respire aujourd'hui, moi, j'ai une vision des choses, c'est-à-dire grâce à mes expériences. Donc cette vision que je partage avec vous, c'est-à-dire ce que je vous dis, voilà, ce que j'ai appris, c'est comme ça que je vois, moi, mon Iran. L'Iran, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire, aussitôt je dis, c'est pas seulement ça. Parce que c'est aussitôt, c'est contraire. Ça dépend des questions que vous me posez, parce que l'Iran, ça fait... On parle de résistance, mais l'Iran, c'est trahison aussi. Moi, j'ai vu mes copains qui ont été fusillés devant 100 000 Iraniens debout. Dieu est grand, Allah Akbar, Allah Akbar. Ils ont tiré 100 000, pas un. Mes copains à moi, mes meilleurs amis, étaient fusillés comme ça. Ça, Iran, c'est Iran aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est à travers de moi, c'est un peu, je vis cette contradiction, c'est des bonnes choses et des mauvaises choses, terribles et fécondes. Donc, je ne mets pas l'Iran face à l'islam, parce que l'Iran, c'est musulman. Mais c'est un musulman qui ressemble à l'Italie chrétien. C'est ça que j'essaye de dire. Voilà, c'est toute une... Voilà, ce qui m'intéresse, c'est dans les contradictions.
Religieuses.
Voilà. Et cette contradiction nous permet d'exister en tant que personne. Pas exister en tant que culture collective. Ça, je m'oppose férocement à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on explique son expérience ou son histoire de sorte que l'étrangeté de son originalité soit admise. Voilà. C'est la seule chose que je tiens, c'est cette originalité de chacun de nous. Alors si cette originalité est piétinée, à quoi que ce soit, par l'islam, anti-islam, par peuple, par culture, par tout ce qu'on veut, par pouvoir, par, je sais pas, par bonheur, ça ne convient pas. À ce moment-là, c'est là que je deviens étranger à tout ce que je dis moi-même. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je te laisse dire, s'il y a des témoignages historiques plutôt, parce que je sais que tu fais un travail très propre, historique, sur chaque chose. Mais moi, je respire seulement. En fait, j'étais arrêté. Et normalement, j'aurais dû être fusillé, disons, peut-être 6 heures plus tard. C'est la veille, le jour où Khomeini annonce, c'est-à-dire donne l'ordre de fusiller les prisonniers politiques. Et ils ont fusillé 70 000, qui a commencé le lendemain. Et juste avant, il y avait beaucoup d'amis, donc dans mon cas, d'ailleurs on était même dans la prison, on se côtoyait. Donc, ça nous est arrivé, à moi comme les autres, comme il n'avait pas l'ordre de fusiller, mais il le faisait peur, pour tout savoir. Donc une des choses qui s'amusait, c'était nous amener comme des condamnés à mort, nous fermer un poteau, fermer les yeux, dire 1, 2, 3, et tirer. Mais ils ne tiraient pas sur nous, ils tiraient à côté. Donc même on sentait le souffle qui passait. Hein. Mais pour moi, mon expérience, J'ai rencontré un ami qui a vécu la même chose avec moi, hein, ici, qui s'est suicidé il y a quelques années. C'était un jeune metteur en scène remarquable. Et c'était qu'à chaque fois, pour ma part, je me suis évanoui. C'est-à-dire, le moment où il tire, et on criait « Abba Khomeini », je criais 15 fois, et il tirait, et après je ne savais pas ce qui se passait, À un moment, je me réveillais, il y avait coup de pied dans le ventre, coup de poing, et je me réveillais, je n'étais pas dans le même endroit. Donc jusque-là, ça, bon, j'étais blessé, hémorragie interne, etc. Mais je ne savais pas. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait l'ordre qui était donné le soir. À l'époque, on ne savait pas, parce qu'on était à l'intérieur. Et puis, on était tous convaincus, têtus. On n'a jamais baissé la tête devant des mollahs. Je veux dire, ça n'est jamais arrivé. Moi, je n'ai jamais dit République islamique dans toute la période. Tout le monde me connaissait, c'est-à-dire à l'université, les professeurs. Il y a des tas de professeurs qui ont été frappés. Comme Yabi, que tu vas publier, hein, demandez-lui, hein, lui, il a écrit une lettre de remerciement pendant la Révolution de ma présence au sein de l'université de l'art dramatique. Alors, pour cette lettre de remerciement, il était arrêté, torturé, et il était obligé de partir. Et quand je l'ai vu ici, il dit, c'est à cause d'une lettre de rendre hommage que je ne te connaissais même pas que je suis en exil. Que j'avais les larmes dans les yeux, je dis pardonne-moi, mais je ne savais pas, et je n'ai pas fait, j'ai rien fait pour ces gens. En tout cas, donc, c'était un soir, et qu'il y avait beaucoup d'allers-retours, allers-venus dans la prison. Et moi, c'est comme tout d'un coup, je me suis levé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je respecte beaucoup mon instinct. Et ça, c'est pas seulement une fois qui m'est arrivé. Je me suis levé et je me suis mis en route vers la porte de sortie. Comme un fou. Dans la guerre, vous voyez, des nazis. Hein, c'est... Mais je me suis levé et je me suis nettoyé. Bien. Et je me suis mis en route vers la grande porte de sortie. Et il y a trois personnes devant moi. Et que je sais pas, est-ce qu'ils sont des policiers? Où ils sont, des prisonniers, je ne sais pas qui ils sont. Mais je marche à une distance un peu distincte pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre nous, pour que je sache qui ils sont. Mais c'était eux qui se retournent et disent « Qui ? Où vous allez, vous ?» Et je dis « Je viens avec vous, on sort. » Tout d'un coup, je jouais le rôle de policier. C'est-à-dire, je jouais que je suis. Moi, je vais venir vous sortir. Et qu'ils disent, ah bon, d'accord, j'ai compris que non, ils sont des prisonniers qui sortent, ils ne sont pas des prisonniers, ils ont une lettre à la main, ils sont libérés, là, ces gens-là. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous êtes venus ici? Et ils ont accepté que je suis un pasteur, je suis un policier. J'ai dit, pourquoi vous êtes ici? Il dit, parce que c'était une erreur, nous, on est ici parce qu'ils nous ont arrêtés, quelqu'un d'autre a passé, je ne sais pas, des cassettes. C'est une histoire de cassette, mais c'est pas à nous. Nous, on a pris l'enveloppe, etc. Donc, moi, j'ai dit, oh, c'est pas grave. Non, on y va. Bon, on arrive à la porte. À la porte, ils disent leur nom. Le policier qui est devant vérifie. Il y a le nom. Il signe devant le nom. Moi, je reste toujours derrière. Et je n'ai pas de nom. Je dis rien. J'attends une fois qu'ils finissent. Mais je dis, on y va. Il me regarde et qu'il voit que l'autre il ne dit rien et on y va. C'est comme ça que je suis sorti, c'est le soir, de Grande Porte. Alors je sors, aussitôt je sors, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Donc je dis comment vous allez partir? Parce que là, la prison à Téhéran, c'est un endroit qui n'a pas de taxi, c'est pas dans la ville, c'est carrément en bas de montagne, c'est un peu particulier. Ben, je dis, comment vous allez partir? Vous avez une voiture? Il dit, non, on va prendre un taxi. Ben, je dis, comment vous allez prendre un taxi? Ben, il dit, on va appeler, il y a un téléphone public. Je dis, on va appeler. Je dis, bon, je viendrai avec vous. Alors, jusqu'à dans le taxi, ils n'osent pas m'interroger. Mais quand le taxi est arrivé, ils me disent, toi, tu es sorti, toi. Tu n'aurais pas été sorti. Alors, je dis rien, je regarde et je dis, pardon. Allez, on y va. On monte dans le taxi, toujours je suis dans le taxi. Taxi s'éloigne. Et là, je dis, j'oublierai pas votre gentillesse. Mais ne dites à personne, parce que si il m'arrête et qu'il arrive quelque chose, je dirai, c'est à cause de vous avez essayé de me sortir. Alors, il dit, non, 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 on n'est pour rien, on n'est pour rien. Je dis, alors, vous payez le taxi, moi, je vais jusqu'à la place Banach. Donc, jusqu'à la place, vous me laissez la place, et vous arrêtez pas, vous continuez votre taxi jusqu'à chez vous. Ben, il dit, d'accord, d'accord, on paye, c'est pas grave. Donc, j'arrive là, il descend, je prends de petites rues, et je disparais. C'est comme par hasard. Je m'en vais, et puis, bon, le lendemain, l'ordre arrive, et les fusillades. D'ailleurs, je m'étais caché pas loin de prison, donc j'entendais des mitraillettes qui me fonctionnaient tout le temps. Donc, moi, je me suis caché vraiment pas loin. J'étais à peut-être 100 mètres de la prison. Parce que j'avais quelqu'un qui habitait juste à côté de la prison. Il dit, c'est le meilleur endroit pour toi, c'est revenir ici, parce qu'ils peuvent chercher partout, sauf ici. Donc j'étais caché, et puis j'ai décidé de partir. De partir, donc je me suis maquillé et j'ai fait une autre carte d'identité. Voilà, j'étais maquillé avec des lunettes bizarres, des cheveux qui étaient teintés en couleur. Et j'ai pris un avion carrément et je me suis déplacé de Téhéran dans une autre ville dans le sud. C'est-à-dire, je jouais un jeu. Je n'arrive pas à comprendre, même aujourd'hui, pourquoi j'avais pas
peur. C'était si facile.
C'était si facile. C'était étrange. Et puis, je me suis caché longtemps et j'ai préparé mon passage vers l'extérieur. Parce que j'ai appris ce qui se passe, petit à petit, j'ai pris contact avec les membres de ma famille et je devais quitter le pays. Et comme j'avais un peu de connaissance de la région, et puis je ne pouvais pas aller vers Kurdistan, parce que Kurdistan à l'époque était libre. Donc je devais partir de l'autre côté, des côtés d'Afghanistan, de Pakistan. Et par là, comme je connaissais la région, j'ai demandé à des copains de me préparer un sac, des médicaments, donc que je puisse survivre dans le désert. Cette histoire, c'est un super roman de mon passage de la montagne jusqu'à... dans le sud, dans le désert, vivre avec les gens du désert et sortir jusqu'à Pakistan, c'est un véritable roman délicieux qui est que personne ne savait qui je suis. Tout le monde pensait que je suis d'abord un touriste. Petit à petit, ils ont dit c'est un médecin. Donc tous les malades sont venus vers moi pour les guérir. Et j'ai guéri pas mal du monde.
Ça fait plaisir à ton père.
Et j'avais un sac vraiment comme ça, des médicaments. J'ai fait venir par un ami, un Azerbaïdjanais d'ailleurs, qui était médecin, qui m'a fait venir des médicaments. D'ailleurs, je pouvais boire mon pipi, par exemple. Il y avait des médicaments, tu mets dedans, tu attends une demi-heure, donc tout ce qui est mauvais tombe en bas, tu bois ce qui est là-dessus. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour, par exemple, survivre pendant 3 mois, seul, dans le désert. Et donc ces médicaments ont servi à guérir pas mal de malades. Et puis ces malades-là, maladroitement, ils m'ont poussé à acheter d'autres. Et donc ils ont fait que la police a compris qu'il y a quelqu'un bizarre dans le coin. Donc j'étais obligé très vite de quitter la région, et une vieille dame qui m'a sauvé de cette région, parce qu'il me dit, un médecin comme ça, on ne va pas le laisser, on va pas le laisser quand je le prends, on va te sauver, on va t'amener en Afghanistan. Et après, c'était trop tard pour aller à pied, donc on m'a dit, cours et saute dans le premier bateau, petit bateau, qui était là, et couche dedans, tu te couches dedans, ne dis rien. Et c'est comme ça que je suis couché dans le petit barque, et puis ils sont venus la nuit à 2h du matin, c'est parti, et 14 heures plus tard, je me suis trouvé au Pakistan, voilà, dans un petit coin perdu, et voilà, le voyage a commencé là, tous des étranges voyages, a commencé là jusqu'à la France, parce que j'ai vécu quand même 3 mois au Pakistan, et puis j'étais intéressé d'abord par les étudiants, et puis j'ai acheté une carte d'identité pakistanaise, et j'ai pris une carte d'étudiant, donc je suis devenu un étudiant activiste au sein de l'université. J'étais arrêté par la police pakistanaise, et voilà, et donc ils sont venus, les Pakistanais, ils ont payé ma libération de Pakistan, les étudiants pakistanais, Baloutch. Ils m'ont libéré, ils m'ont caché dans les montagnes, donc je suis dormi dans les montagnes du nord de Pakistan pendant pas mal de temps. Et puis voilà, j'ai décidé de prendre contact avec des amis français, c'est-à-dire des amis, des intellectuels qui étaient ici. Et on m'a dit, il y a une réunion en France, il faut que tu viennes. Mais je dis, pourquoi faire? On m'a dit, il faut que tu viennes parce que c'est ici qu'on va décider, est-ce qu'on va... attaquer la lutte armée, on va lancer ou on va faire quelques pas en arrière. Bon. Parce que comme je voulais repartir en Iran, moi de toute façon, c'est-à-dire je voulais faire le tour et aller en Kurdistan, c'était pas possible par intérieur. Donc je voulais faire Pakistan, revenir en Espagne, revenir en Turquie et repartir en Kurdistan. Alors on me dit, bon, puisque tu vas faire ce voyage, on va t'arranger, tu viens 15 jours à Paris. Et voilà, tous les problèmes commencent. Comment j'y arrive là. Alors j'arrive avec un billet d'Espagne qui n'avait pas de visa, transit par Paris. Alors il devait venir me chercher à Paris, à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, on me dit, bon, tu n'as rien à faire. Une fois que tu arrives, tu dis au policier, tu dis, je suis réfugié politique et je suis attendu en bas. Donc on est là, nous. Mais appelle-nous. Juste avant ton départ, tu nous appelles. Alors, c'est une seule fois j'étais volé, on m'a pickpocket, volé quelque chose de moi, c'était cette fois qui m'a fait vraiment mal. Parce qu'il a pris pas grand-chose. Il avait pris mon carnet de téléphone. Hein? Dans le bus au Karachi. Alors, et je ne me suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte, une fois je suis à l'aéroport, et je dis à mon guide, je dis, donne-moi 2 minutes, je dois passer un coup de fil. Ben, il dit, vas-y, je vais, il n'y a pas de carnet. Et là, je dis, bon, c'est pas grave. Si j'ai perdu, j'ai perdu. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris, et je dis à un monsieur policier, je vais le voir gentiment, je dis, voilà, je suis un réfugié politique iranien, et je suis attendu en bas, en anglais, donc je ne parlais pas un seul mot français. Hein. 2 ans après, j'ai commencé à apprendre la langue française. Ça c'est... En septembre 2003. Septembre 2003. Et le policier, il dit, c'est très bien, suivez-moi. 2003. Non, pardon, 83. 2003. 83. 2003. Septembre 83. Alors, je suis ce monsieur, il y a un monsieur qui vient, un autre qui vient me voir et dit, bon, je suis médecin, vous êtes, vous sentez pas bien, vous toussez, paraît-il. Je toussais beaucoup, évidemment. Je toussais beaucoup, j'étais tout pâle, j'avais pas de cheveux du tout, hein, pas de poils, ok. J'avais perdu tout ça. Et, bon, vous dites, vous êtes malade, donc, ils me disaient, ils me regardaient bizarrement, ils avaient peur de moi, donc, j'étais maigre, je ne suis pas gros toujours, mais vous imaginez, 20 kilos moins que maintenant. Non, c'est beaucoup. Alors, et sans cheveux, sans sourcils, sans tout ça, ça fait peur. Les gens, ils avaient peur. Ils disaient, il y a une maladie grave. Et moi, j'ai joué le jeu, c'est-à-dire je pensais qu'ils sont gentils. Peut-être qu'ils vont m'aider, parce que honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi j'ai perdu tous mes cheveux. Alors, le médecin arrive avec une piqûre. Il dit, vous savez, vous calmer. Et je me suis endormi et je me suis réveillé à Madrid, dans la salle de transit. Et il y a un monsieur, un Allemand, qui essaye de me réveiller. Il dit, ça va. Moi, je suis témoin. Je sais ce qui s'est passé. J'ai vu. Si vous avez besoin, voilà mon nom. Et ben, je ne comprends rien de tout ce qu'il dit. Alors, il écrit un nom et un numéro de téléphone. Et il me donne, je vois, 40 marques. Et il dit, c'est pas beaucoup, mais ça vous aiderait. Il me glisse ça dans ma poche. Et il me lève jusqu'à la sortie de l'aéroport de Madrid. Et là, bon, je m'installe encore un petit peu. Et puis, je prends le bus. Où est la ville? Où je suis? Madrid, vous êtes en Espagne. Et voilà, je vais dans la ville. Et je cherche maintenant un endroit de dormir. Bon, l'histoire de Madrid a duré 3 mois quand même. Hein, que je m'installe quelque part, je téléphone aux États-Unis à mon frère qui était là-bas, que j'ai rien, j'ai 20 dollars, vas-y, fais quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il me dit, alors, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que tu retournes à l'aéroport, premier avion qui vient des États-Unis, on t'envoie des choses. Hein. Alors, je retourne là-bas et il m'envoie 5-6 cartons de vêtements, des chaussures, mais je les mets où? Mais comme je le transporte, il fallait payer beaucoup d'argent pour un taxi, pour l'amener jusqu'à Madrid déjà. Alors, je dis, est-ce que vous pouvez garder ça, s'il vous plaît, j'ai pas d'argent. Alors, j'ai montré mes marques, et donc, j'ai pas d'argent. Alors, je suis allé chercher un Iranien à Madrid. Donc, j'ai cherché partout. Dès que je voyais une tête iranienne, vous êtes iranien hein? Souvent, non. Alors, j'ai trouvé un. Alors, il était iranien. Je dis, voilà, j'ai beaucoup de choses. Je veux bien vous partager, vous prenez tout. Vous me laissez seulement deux pantalons, deux choses chaudes, parce que j'avais des sandales, les pieds nus, les sandales. Et je suis arrivé en septembre en Espagne. Vous imaginez, il fait froid. Au Karachi, il faisait pas froid du tout. Il faisait... Avec une chemise jusque-là, donc je tremblais comme ça. Donc, il dit d'accord, on est allé chercher tout, et puis bon, j'ai laissé tous les cartons, j'ai pris une paire de chaussures qui était trop petite pour moi, donc je préférais mes sandales. Et puis, il m'a aidé, cet Iranien, de trouver un hostel, qui n'est pas un hôtel, hein, un endroit où on peut dormir. Et puis, voilà, je commençais ma vie espagnole, apprendre la langue très vite, et puis essayer de communiquer, trouver les réseaux iraniens, et puis. 3 mois après, j'étais amené jusqu'à la frontière d'Espagne et j'ai passé à pied la frontière dans les Pyrénées. Voilà, je suis arrivé ici en fin décembre 83 à Paris. Voilà. Sain et sauf.
Qui a écrit, donc qui connaît bien la culture aussi, et qui a écrit quelque chose
très peu de choses par rapport à cette vaste connaissance. C'est artistique. Ce que tu dis, c'est vraiment artistique. Et j'ai écrit quelques mots pour ne pas perdre de temps à propos de Kazem, qui est plutôt témoignage de mes sentiments envers lui. J'ai découvert Kazem ici à Paris, dans son art et studio de théâtre, lion intime au service de ses créations d'art. Lorsque j'y suis allé voir son Parle-moi du soleil et des oubliés, tu te souviens. Dans son témoignage déchirant et en même temps poétique d'un fait quotidien, il m'a fait penser aux quatre figures emblématiques. Je te dis sur le champ ce soir. À Edvard Munch, concrétisé en son chef-d'œuvre Le Cri, à Georg Büchner, préfigurant à son époque le théâtre le plus sombre du XXe siècle à travers son Voitzeg, fiévreux et manipulé, victime de l'injustice sociale, un cri expressionniste au sein d'une nuit noire, revendiquant bêtement sa modeste part de la dignité humaine dans une société hostile. À Antoine Watteau et à son Jésus crucifié, en train de souffrir mille et une douleurs, portant tous les péchés de l'homme sur le dos et suppliant pourtant son salut auprès de son Père. Mais aussi au célèbre poète iranien de cette dernière décennie, Sohrab Sepahi, le chantre des éléments les plus simples de la nature, chantant douloureusement l'hymne à la nature, à l'amour et à la joie. Depuis la représentation de Parle-moi, je n'ai jamais raté un spectacle de Kazem, poursuivant son parcours. Décidé et fort de ses convictions artistiques et sociales, il avance d'un spectacle à l'autre, et aussi d'un poème à l'autre, vers son idole. Ses pièces ne sont en effet que des poèmes dialoguer et sa poésie porte en elle-même toutes les substances de ses œuvres dramatiques. Partant du métier de comédien vers la poésie et la dramaturgie, Kazem est avant tout un metteur en scène, par excellence. Dans sa dernière création, la mise en scène d'un récital de chant, il entre triomphant dans une nouvelle phase, dans le domaine de la ratification et de l'abstraction théâtrale. Sans prêter même un seul mot à cette création, on pouvait y voir toute cette poésie et la force de ce drame. C'est mes sentiments envers Kazem. Et je vais ajouter une chose. Il y a une capacité énorme dans Kazem de changer les choses, de transformer les choses, de transformer les défauts vers la qualité. Par exemple, vous avez vous tous son théâtre. Chaque pièce que vous donnez à lui, il le met en scène de sorte que il nous donne l'impression que ce drame, cette pièce est exclusivement écrite pour sa théâtre. Ou à l'inverse, son théâtre est créé pour monter cette pièce. Et il y a deux piliers au milieu de sa scène, de la scène de son théâtre. Il les intègre dans sa mise en scène de Soko. Si on enlève tout ce fond. Thank you.